vendredi 27 novembre, Radio Campus et ses radios partenaires présentent la Nuit européenne des chercheurs. Organisée à partir de 14 villes et campus de France, cette édition sera numérique et radiophonique. Cette année, sous la lanterne des petits secrets nocturnes, les chercheurs se confieront à vous en images et en sons pour vous faire part de leur démarche. Entre intuition créative et respect des protocoles, particularités de leur métier et subtilités qu'ils peuvent rencontrer dans leurs travaux. La Nuit européenne des chercheurs, c'est le 27 novembre, en direct et en podcast, sur le www.nuitdeschercheurs-france.eu et sur radiocampus.fr.
Étale ta science.
3, 2, 1, 0, all engine running.
Le podcast de la recherche culturelle et des sciences participatives. Bienvenue à toutes et à tous dans le premier épisode d'Étale ta science, le podcast de la recherche culturelle et des sciences participatives. Les sciences participatives, ce sont des programmes destinés à un public qui ne sont pas des chercheurs et qui collectent des informations, des données qui seront ensuite utilisées par des chercheurs. Au sommaire de ce premier épisode, vous pourrez entendre Colin Fontaine, chercheur au Centre d'écologie et des sciences de la conservation du Muséum national d'histoire naturelle et spécialiste de l'étude des réseaux d'interaction entre espèces. Il travaille sur les données collectées via l'application SPIPL. SPIPL, c'est l'acronyme pour le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Vous pourrez également entendre une chronique de Léo Tessier sur Penguin Watch, une application qui aide les chercheurs à mieux comprendre les manchots de l'Antarctique. Eliott Janon vous concocte un petit sketch humoristique, mais tout de suite on retrouve Élodie Hervier qui a rencontré et suivi une jeune spipolienne, Emeline, dans son observation des insectes pollinisateurs.
Ah, du coup là on a le lierre du coup, sur lequel j'ai fait mon observation. Et là par exemple on a les frelons asiatiques donc qui butinent pas mal, il y en a pas mal cette année. Il y en a là, il y en a là aussi. On a plusieurs espèces de mouches. J'en ai vu une grosse noire ici. Après, on en a des plus petites. C'est assez varié. Il y a vraiment plein d'espèces différentes. Et du coup, là, c'est dommage parce qu'avec le mauvais temps qu'on a eu ces dernières semaines, on n'a pas les abeilles julières, donc qui s'appellent les colettes julières, qui sont des colettes, donc des petites abeilles en fait toutes poilues, qui sont vraiment caractéristiques à cette espèce. Et ce qui est assez marrant, c'est de les voir vraiment en pleine saison, toute butinée, parce que ça fait un peu des nuages, enfin des nuages, j'exagère le mot, mais ça fait plein de petites abeilles qui butinent dans tous les sens, avec un vol quand même assez nerveux. Et c'est des abeilles que je trouve notamment particulièrement mignonnes, parce qu'elles sont vraiment toutes poilues, elles ont de jolies couleurs orangées, un peu miel et noir. Elles sont vraiment très sympathiques. Dès que les gestionnaires d'espaces naturels, enfin d'espaces naturels, de gestionnaires de parcs ou de villes en fait vont tondre un petit peu, on va vraiment être limité dans les observations. Parce que rien que sur les pâquerettes ou sur les pissenlits par exemple, il y a toujours quelque chose à voir. On clique sur aide à l'identification et PlanteNet analyse les photos et il nous propose différents choix. Et là directement le premier, c'est le lierre grimpant. Ensuite on passe à la phase d'observation. Donc là c'est une phase de 20 minutes où on va prendre en fait en photo tous les insectes qui vont aller polliniser, qui vont se poser sur la fleur qu'on a choisie. Tous ces insectes là on va essayer de les prendre en photo, sachant que certains ne sont pas faciles. Et on obtient ensuite du coup une collection de plusieurs photos qu'il faut trier et recadrer. Donc là par exemple on peut zoomer, celle-ci elle est un peu floue, je vais voir si j'en ai pas une autre. Hop. On a un outil qui nous permet directement de les identifier. Et donc là, on va avoir parlé de diverses questions sur la longueur des antennes, par exemple, la forme des yeux, la coloration, la pilosité. Et toutes ces questions, en fait, elles vont nous permettre d'aboutir à un résultat. Et donc là, vous voyez, par exemple, ils nous proposent les abeilles coucou, les abeilles difficiles à déterminer, ça c'est vraiment pour quand on ne sait pas ce que c'est, les andrennes, le frelon asiatique. Et là, il se trouve que du coup, mon image, c'est un frelon asiatique, et qu'en répondant du coup à toutes les questions, ils me le proposent bien. Et après, moi-même, en regardant un peu les photos, je peux voir, cliquer là-dessus et dire oui, c'est bien le frelon asiatique.
Oui, ça te l'a dit. Étale ta science.
Le jeudi 22 octobre, nous nous sommes rendus, munis de nos masques et de nos enregistreurs, au Muséum National d'Histoire Naturelle dans le 5e arrondissement de Paris, afin de rencontrer Colin Fontaine, chercheur au Centre d'écologie et des sciences de la conservation du Muséum National d'Histoire Naturelle et spécialiste de l'étude des réseaux d'interaction entre espèces. Il travaille en lien avec les données de l'application SPEEPLE, l'application pour le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Cette application, comme vous l'avez entendu avec Emeline, permet à tout le monde d'observer une plante pendant quelques minutes et de relever le nom des insectes qui se sont posés dessus dans ce laps de temps. Mais Colin Fontaine, où sommes-nous exactement ?
On est au sein du laboratoire du Centre d'écologie et des sciences de la conservation, qui est un laboratoire du Muséum d'histoire naturelle. C'est un laboratoire qui est un peu particulier parce que c'est un laboratoire interdisciplinaire avec à la fois des écologues, des biologistes et puis aussi des personnes des sciences humaines. Pourquoi est-ce qu'il y a ce mélange de disciplines ? Parce que on a tous un peu comme objectif la conservation de la biodiversité. Et si on veut conserver la biodiversité, il faut à la fois comprendre la biodiversité, la connaître, la suivre, mais on est bien obligé aussi de prendre en compte le facteur humain, parce que si personne ne veut conserver la biodiversité, on ne conservera pas la biodiversité juste en comptant des papillons.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos recherches, ce sur quoi vous travaillez ?
Moi, je suis écologue, je suis du côté écologie dans ce laboratoire. J'étudie en général les systèmes écologiques à l'échelle des communautés, ce qu'on appelle les communautés écologiques, c'est-à-dire les ensembles d'espèces qui vivent à un endroit donné, à un moment donné, et toutes ces espèces qui ont des interactions entre elles. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ces histoires d'interactions entre les espèces, un petit peu qui mange qui pollinise qui parasite qui, et comment, en prenant en compte ces interactions entre les espèces, on peut comprendre la réponse aux perturbations des communautés. À quel point les perturbations vont se propager au sein des communautés écologiques, ou à quel point elles vont être tamponnées par une organisation particulière.
Et comment vous êtes arrivé à devenir chercheur, et quel a été votre parcours plus jeune jusqu'ici ?
Je ne savais pas vraiment quoi faire, je dois dire. Et ma grand-mère m'a dit, si tu ne sais pas quoi faire, fais ce pour quoi tu as le moins de mal. Et j'avais pas trop de mal à faire de la biologie, ça m'intéressait, j'avais des notes correctes sans trop travailler. Donc je me suis engagé vers la fac de bio. Et puis là, de proche en proche, j'ai découvert l'écologie, ça m'a intéressé de plus en plus. Et puis, les années sont passées, les diplômes sont arrivés, et puis j'ai terminé par faire une thèse en écologie. Disons que ce n'est pas une vocation très, très profonde en moi, mais cela étant, ça me plaît beaucoup, et j'ai continué ensuite le parcours classique, c'est-à-dire un post-doctorat à l'étranger. Et puis, au bout d'un moment, j'ai réussi à avoir un poste au CNRS ici.
Quel serait votre conseil à des étudiants qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure de la recherche ?
Je pense que c'est une très bonne idée. Il faut vraiment y aller à fond. Si ça intéresse, enfin, c'est vraiment un moteur pour faire des choses qui est super important. C'est quand même une voie qui est, qu'on dit, sélective. C'est-à-dire que Il y a pas mal de gens qui ont envie de faire ça, il y a assez peu d'élus, il y a de moins en moins de postes actuellement. Mais ce que je soulignerais là-dessus, c'est d'une part, faut tenter sa chance. Si on tente pas sa chance, on n'aura aucune chance d'y être. Et puis l'autre chose, c'est que je pense profondément que c'est une formation de très grande qualité. De faire de la recherche pendant quelques années, même si on ne fait pas ça après dans toute sa vie, je pense que c'est quelque chose qui nous apprend à pouvoir appréhender n'importe quelle question, à pouvoir se débrouiller face à un problème complexe et de savoir comment le prendre, comment l'étudier. Même si tous ne sont pas élus et tous ne terminent pas chercheurs, je pense qu'en fait, c'est vraiment une formation qui est excellente.
Vous travaillez sur les données de l'application SPEEPLE, donc une application de sciences participatives. De quelle manière est-ce que vous travaillez avec ces données ?
En fait, c'est un protocole qu'on demande à des participants de suivre pour nous envoyer des données sur les interactions entre les plantes et les pollinisateurs. Donc le protocole, c'est un peu la marche à suivre qui permet de pouvoir comparer les données qui sont prises par différentes personnes dans différents endroits, etc. Il y a quand même une petite marche à suivre pour que nous, derrière, on puisse comparer les choses. Et il s'agit de choisir une plante en fleur où on veut, quand on veut, et de photographier l'ensemble des insectes qui viennent se poser ou butiner cette plante en fleur. Et ensuite, ces données sont uploadées sur un site internet. Les insectes sur ces photos sont identifiés par les auteurs, mais aussi en aide avec toute la communauté des spipoliens, on les appelle comme ça.
Et des médiateurs qui aident.
Tout à fait. Il y a aussi, donc c'est un programme qui est en partenariat avec le muséum et l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement, qui anime ce programme. Et donc, on se retrouve comme ça avec plein de points en France où une fleur a été observée pendant 20 minutes et on sait quels sont les pollinisateurs qui sont venus pendant ces 20 minutes. Donc, c'est des données qui sont assez incroyables. Le programme a commencé en 2010 et depuis 2010, on a, si je ne dis pas de bêtises, plus de 400 000 photos d'insectes qui ont été répertoriées comme ça. Ce qui permet, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue d'analyse des données, d'avoir des idées sur la répartition spatiale et temporelle des pollinisateurs en France.
Concrètement, il y a certains endroits où il n'y a pas certaines espèces d'insectes et d'autres plus.
On a analysé ce jeu de données notamment pour étudier l'effet du type d'utilisation des sols sur les communautés de pollinisateurs en comparant des milieux urbains, des milieux agricoles et des milieux naturels. Et par exemple, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que les milieux urbains sont relativement hospitaliers pour les hyménoptères, c'est-à-dire les abeilles, toutes les abeilles sauvages. Alors, c'est relativement, hein, toutes les espèces n'arrivent pas à s'établir en ville, mais comparativement aux autres groupes de pollinisateurs que sont les diptères, donc les mouches, les papillons, et les coléoptères, les scarabées, les abeilles ont plus tendance à pouvoir supporter la ville que les autres groupes de pollinisateurs. On a pu montrer aussi, alors c'est pas très étonnant, mais ça montre que les données qu'on récolte sont pertinentes et ont vraiment du sens écologique. On a pu montrer également que les espèces plus rares, les taxons un peu plus rares, se retrouvaient majoritairement dans les milieux naturels. Et puis, par exemple, que la ville avait un effet de ce qu'on appelle l'homogénéisation biotique, c'est-à-dire que en sélectionnant les espèces qui sont capables de vivre en ville, en fait, dans toutes les villes de France, on finit par se retrouver avec les mêmes espèces. Alors que si on est dans un milieu naturel, on va avoir des espèces qui sont beaucoup plus inféodées aux endroits où on se trouve.
Je ne savais pas que les mouches étaient un insecte pollinisateur.
Si, bien sûr. Alors elles sont un peu moins aimées que les abeilles, un peu moins connues que les abeilles. Mais en termes de diversité, elles sont beaucoup plus. Enfin, c'est beaucoup plus important. C'est des pollinisateurs qui vont être particulièrement importants dans les milieux frais. Donc plus on va vers le nord, plus la part des mouches est importante dans la pollinisation. Plus on va en altitude, plus la part des mouches est importante dans la pollinisation. Et ces mouches au sens large, c'est-à-dire qu'on a des mouches alors qu'on connaît peut-être un peu plus, qui sont les cirfes, qui sont des petites mouches déguisées en guêpes ou en abeilles, qui sont rayées jaune et noir et qui volent en faisant du surplace. Quand on voit ça, c'est un cirfe.
Ah, d'accord.
Ou une cirfe. Donc c'est une mouche. Il y a une diversité de formes, de couleurs, phénoménale.
Je sais qu'il y a des rencontres tous les ans avec les spipoliens et parfois les chercheurs peuvent y participer. Est-ce que vous avez déjà participé à ce genre de rencontres ?
On essaye de se rencontrer tous les deux ans ou tous les ans. Et oui, j'ai participé à l'ensemble des rencontres, en fait. C'est des moments assez incroyables parce que, enfin, surtout au début, quand on ne se connaissait que par le pseudo sur le site internet, de mettre des visages sur les gens, c'est assez amusant. Et puis, ces rencontres, elles permettent aux participants de se rencontrer vraiment, de se connaître et de. On a des participants maintenant qui font des sorties ensemble, qui sont devenus amis. Ça permet aussi de faire ce lien entre la recherche, l'utilisation des données et puis la récolte des données par les participants. À quoi servent leurs données? En quoi est-ce que la pratique qu'ils ont du Spipol est bien pour l'utilisation des données derrière? Puis on échange des façons de faire.
C'est un peu comme une communauté, une association finalement.
C'est vraiment une communauté, enfin dans le cadre du Spipol, c'est vraiment une communauté assez soudée, extrêmement bienveillante, ce qui est assez notable dans le monde de l'entomologie, où en général c'est assez hiérarchique, les gens qui savent et les gens qui savent pas. Ouais, non, ils sont super.
Étale ta science.
Mais qu'est-ce donc, professeur?
Ah, il s'agit d'un bourdon des Galapagos, hein, hein.
Incroyable. Et ça?
Ça, c'est une abeille à tête cendrée.
C'est quoi, ça?
Ça, c'est... Oh non, mais Serge, arrête, ça devient lourd, là, hein.
Oui, le pollen, j'aime le pollen.
Ah, ça fait des années que je lui ai arrêté le café, ça le détraque complètement.
Allez, prends-moi en photo.
Serge, ça devient vraiment malsain, là. Arrête, s'il te plaît.
Et j'ai vu que vous contribuez également à des articles qui sont publiés sur le site de Spipol, qui vulgarisent un peu vos recherches, j'imagine.
Effectivement, donc, en tant que chercheur, mon travail, ça se matérialise par des publications scientifiques dans des journaux scientifiques. Donc, c'est des journaux en anglais. Il y a des statistiques dedans, des chiffres, des graphiques, etc. C'est pas forcément très accessible à tout le monde. Du coup, on essaye de réécrire ces articles dans des versions un peu plus accessibles en français pour que les résultats soient diffusés auprès des participants et à un autre public que le public des scientifiques.
Est-ce que vous-même, vous avez participé déjà à des projets de sciences participatives? Est-ce que vous avez fait des observations?
Je suis pas vraiment naturaliste. C'est-à-dire que je ne connais pas très bien les espèces, je ne sais pas très bien les reconnaître dans la nature. J'ai fait un peu de Spipol, mais très peu.
Par curiosité ou...
Non, je l'ai fait parce que je travaillais dessus et que j'ai voulu en faire pour avoir une connaissance de la genèse des données, quoi, pour comprendre bien le protocole, etc. Après, j'ai passé pas mal de temps à analyser les données. Ça me plaît bien. Et ça me plaît peut-être plus que de faire des photos d'insectes, mais c'est la complémentarité entre différentes personnes, différents intérêts qui fait que le projet peut marcher.
Et qu'est-ce que ça apporte à vos recherches, le travail en sciences participatives? Est-ce que ça a une plus-value ou parfois ça peut ralentir aussi parce que j'imagine que... On n'est pas sûr à 100% des données qui sont postées?
Alors effectivement, certains doutent sur une qualité des données de sciences participatives. Chose contre quoi on a dû se battre en tant que scientifique auprès d'autres scientifiques qui remettaient en question cela en disant seuls les gens en blouse blanche peuvent récolter des données qui valent quelque chose. Je ne crois pas que parce qu'on mette une blouse blanche, les données soient meilleures. Par contre, ces données de sciences participatives, elles sont particulières, mais comme toute donnée même récoltée par un scientifique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire ou tout faire dire à ces données, donc il faut bien les connaître pour les analyser sans faire de contresens ou sans pousser trop loin les choses. Mais après, c'est des données qui sont absolument fantastiques.
Donc ça, c'est côté plus-value
Ça permet de suivre les pollinisateurs là, depuis 10 ans sur tout le territoire français. C'est une chance absolue pour essayer de mieux connaître les pollinisateurs.
Ce serait impossible autrement d'avoir ces données-là.
À cette échelle-là, c'est compliqué, ouais, parce que les chercheurs, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont occupés à plein de trucs. Il faut des financements pour mettre en place les suivis. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que c'est un moyen, enfin, notamment, par exemple, sur les pollinisateurs, qui est un sujet de société dont on entend parler énormément, de faire un lien entre des personnes non scientifiques et la science sur ce sujet-là, ça a un intérêt réel. La plupart des spipoliens sont arrivés dans ce programme par la photo. Pas du tout parce qu'ils aimaient les insectes. La plupart ne connaissaient rien aux insectes quand ils sont arrivés. Et maintenant, c'est des entomos chevronnés et qui ont une connaissance de la pollinisation des insectes qui est réelle. Enfin, d'ailleurs, on l'a mesuré. On a bien vu qu'ils apprenaient, qu'ils savaient les reconnaître. Et puis aussi une connaissance qui est sensible. Ils ont observé des pollinisateurs, ils se sont posé des questions sur eux. Pour eux, maintenant, quand on parle de conservation des insectes et des pollinisateurs, ils savent très bien de quoi on parle.
Il y a un attachement qui se crée.
Un attachement et un savoir. Un savoir qui est, pas simplement le savoir des publications qu'on vulgarise, mais un savoir qui est une vraie connaissance, qui est liée à l'observation, et ça, c'est une connaissance intime.
Est-ce qu'on pourrait dire que les sciences participatives, c'est militant ?
Nous, on ne cherche pas vraiment à en faire des militants. Ce qu'on cherche, c'est à diffuser du savoir. Et savoir que, alors que nous, on crée, mais qu'eux se créent aussi eux-mêmes. Et en anglais, on parle d'empowerment. Le fait d'avoir de la connaissance donne les capacités de choisir, de décider des choses en conscience. S'ils veulent devenir militants, s'ils deviennent militants, c'est leur choix. Le but de la chose, c'est qu'ils aient une connaissance de ces questions de biodiversité, d'environnement et là sur les insectes. Et puis, cette connaissance, après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais ils ont cette connaissance.
Ce podcast est diffusé dans le cadre de la Nuit européenne des chercheurs. Donc, on a une dernière question que l'on pose à tous nos invités. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'être un ou une chercheur ?
Être chanceux, parce que c'est un métier qui est, que je trouve fantastique. Si j'étais pas passionné au départ, je le suis maintenant. Après, des chercheurs, il y en a toutes sortes. C'est aussi assez diversifié, mais peut-être que l'un des trucs, c'est une curiosité, poser des questions, aimer essayer d'apporter des réponses qui seront jamais définitives.
Merci Colin Fontaine de nous avoir permis de découvrir votre lieu de travail et de nous avoir parlé de la manière dont vous traitiez les données issues des sciences participatives à nos micros d'Étale ta science. Si vous souhaitez devenir spipolien et contribuer à nourrir la recherche sur les insectes pollinisateurs, vous retrouverez tous les liens nécessaires dans l'article associé à ce podcast. Tout de suite, Léo Tessier découvre pour vous une autre initiative de sciences participatives, mais avec des pingouins cette fois.
Alors pour vous, j'ai testé Penguin Watch, un programme d'observation des populations de manchots. Bon, déjà, ça commence bien. Tous les pays s'accordent à utiliser le mot penguin, et nous, on choisit manchot pour désigner cet oiseau incapable de voler vivant au pôle sud. Mais passons. Je me rends donc sur la page de Penguin Watch, sur la plateforme Zooniverse, et là, on me propose des photos issues de caméras installées en Antarctique. Le but est simple, compter les manchots. Et pour ce faire, notre pointeur de souris se transforme en viseur. Bang, 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 on se croirait dans un jeu d'arcade.
You win.
Sauf que là, bon, il n'est pas question de dégommer Happy Feet et ses amis, mais bien de compter les manchots, leurs œufs et leurs petits. Alors clic, 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 je me prends au jeu dans ce Où est Charlie au pôle sud. Mais pourquoi je les compte en fait ? Parce que les populations de manchots sont en déclin. En cause, les changements climatiques et l'industrie de la pêche notamment. Nos comptages viennent donc alimenter des bases de données, utilisées ensuite par les chercheurs, pour mieux comprendre et donc mieux protéger les manchots et toute la chaîne alimentaire qui en découle. Alors je vous invite à essayer de me battre, mais attention, hein, j'ai la gâchette facile, j'ai déjà compté 50 manchots en moins de 30 secondes.
Merci d'avoir écouté Étale ta science, le podcast sur 5 épisodes sur la recherche culturelle et les sciences participatives. Ont participé à ce podcast Élodie Hervier, Elliot Janon, Léo Tessier et moi, je suis Anna Péan. Ce podcast a été réalisé avec Radio Campus France, la Nuit européenne des chercheurs et grâce au soutien du ministère de la Culture.